carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous sommes aujourd'hui au château de la Brède, non loin de Bordeaux, et on y accède par une allée assez longue. Et qu'est-ce qu'on voit enfin, Olivia Battistello, qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui?
En passant par cette grande allée, on découvre un château, le château de Montesquieu, assez atypique hein, par sa forme polygonale. Ce château est entouré de grands espaces verts, de prairies, de forêts, et ses douves tout autour, avec un balai de carpes qui se trouve dans les douves.
Et de grands espaces verts autour.
Oui.
Il y a combien d'espaces verts autour de cet incroyable château, Olivia?
Il y a 150 hectares de bois, de prairies.
Et donc pour accéder au château, on passe par une petite porte avec une inscription.
Oui, alors cette inscription, c'est une citation en latin. « Horus quando te aspiciam, ô campagne, quand te reverrai-je ? » Et c'est Montesquieu qui l'a fait inscrire ici pour marquer son attachement avec ce domaine. Domaine qu'il ne voyait pas tous les jours puisqu'il avait une vie partagée entre son domaine de la Brède, sa vie bordelaise et sa vie parisienne.
Voilà, donc nous allons visiter les pièces qui ont vu passer la vie de Montesquieu et en allant visiter la chambre, le salon, des pièces qui ont vraiment vu la vie du célèbre philosophe. Donc nous sommes au château La Brède, nous rentrons dans un vestibule, un hall
d'entrée par lequel on accède aux différentes pièces du château.
Alors, comment vous appelez ces poteaux qui ornent le hall?
Ah, ce sont des colonnes torses. Alors Montesquieu ne les a absolument pas connues, hein. Elles ont été installées au XIXe siècle dans le but de soutenir le poids de la connaissance, du savoir qui est au-dessus de ce hall d'entrée puisqu'il y a une partie de la bibliothèque au-dessus. Donc avec les livres de Montesquieu et ses armoires, déjà un point important et un petit problème d'humidité avait fragilisé le plafond, donc c'est pour ça qu'ils ont installé ces colonnes assez particulières.
Et donc nous rentrons directement dans le salon, donc un salon pas particulièrement grand mais avec beaucoup de tableaux.
Oui, alors c'est vrai que c'est un salon à l'échelle humaine, hein, comme on s'y sentirait vivre, et beaucoup de choses ici. Hein. Non seulement les tableaux, il y a beaucoup de mobilier, beaucoup d'objets. Alors c'est ce qui fait la grande richesse de ce domaine, c'est qu'il est entièrement meublé, des objets et mobilier de l'époque de Montesquieu.
De l'époque, oui. De quel style?
Bien sûr, différents styles, puisque chaque membre de la famille a apporté un peu la touche de son époque. Donc on peut avoir du Louis XIII, du Louis XIV, du Louis XV, et bien sûr aussi bon, des choses 19e. Mais le fait qu'il y ait encore des meubles de Montesquieu, des souvenirs de ses voyages, puisque Montesquieu est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et il voulait enrichir ses connaissances, découvrir le monde, et pendant à peu près 3 ans, il a parcouru l'Europe. Il est allé en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, et il a ramené, vous avez ici des meubles, un petit cabinet italien 17e, et une armoire de Hollande, qui sont ses petits rappels de ses souvenirs de voyage.
Et on trouve beaucoup de tableaux, donc revenons à ces tableaux, il y a beaucoup de personnes, est-ce que c'est sa famille, est-ce que c'est
des amis? La plupart des portraits sont des portraits de famille, hein, que la famille, les propriétaires ont ajouté, réunis ici au fil des siècles. Portrait principal de Montesquieu. Alors on le voit, c'est un portrait assez connu hein, de lui, où il est représenté dans sa robe de juge, puisque Montesquieu est un villageois de la Brède. Il a passé son enfance ici et son père l'a destiné à poursuivre des études de droit. Et grâce à son oncle, il a pu avoir une charge de président à Mortier au Parlement de Bordeaux, donc une charge de juge. Donc on le voit ici représenté dans sa tenue, assez, avec cette prestance. Et malgré le fait que c'était une charge importante, il s'en est séparé au bout de 10 ans parce qu'il a souhaité se consacrer à sa vie d'écrivain. qu'en même temps, en cumulant cette fonction au Parlement de Bordeaux, il commençait à découvrir les milieux intellectuels parisiens et il s'avérait qu'il était plus souvent à Paris qu'au Parlement à Bordeaux.
C'est un portrait qui est très très connu.
Oui, portrait très connu. L'original est conservé à Bordeaux.
Quelle est la pièce qu'affectionnait le plus Montesquieu dans ce château ?
Il y en avait deux. Il n'y avait pas qu'une. Hein. Il y avait sa chambre et aussi sa bibliothèque. On peut aller
donc allons voir la
découvrir sa
qu'est-ce
chambre.
Qu'on voit en premier, la chambre peut-être.
Oui, la chambre.
Alors on se dirige vers
juste
la chambre.
Juste à côté de son salon.
Ce château est tel qu'il était à l'origine. Il n'a pas été rénové.
Il n'a
pas été détruit.
Alors il n'a pas été détruit, mais il a subi bien sûr des modifications.
Là, nous sommes dans la chambre avec encore des portraits, beaucoup de tableaux. Visiblement, il affectionnait particulièrement. Est-ce que cette chambre était telle qu'elle est aujourd'hui à l'époque ?
En grande partie, en grande partie. Alors, vous l'avez souligné, effectivement, il y a encore ici beaucoup de portraits, des bustes aussi de Montesquieu, de sculpteurs assez célèbres comme le sculpteur Houdon ou Lemoine. Bon, ici, ce sont des copies, bien entendu, mais il n'y avait pas toutes ces choses du temps de Montesquieu. Il y avait quelques portraits de famille, comme ses arrière-grands-parents, par exemple, et au fil des siècles, la famille en a rajouté. Mais quand même, cette pièce, elle est authentique. On a l'impression que Montesquieu va rejoindre sa chambre prochainement. Les boiseries sur les murs sont de son époque. Le pavement en tomette en pierre qui apporte cette touche un petit peu de lumière dans ce côté un peu austère par ces boiseries.
Assez obscur.
Assez obscur, oui, effectivement. Mais on remarque quand même que la chambre est exposée en plein sud, donc on a toute la lumière qui vient éclairer toute cette chambre.
Donc il y a un lit à baldaquin.
Oui, un lit à baldaquin qui était le sien. Alors on peut remarquer ce baldaquin avec ses tentures d'époque, des tentures en soie. Bien sûr, un petit peu abîmées, mais c'est le caractère authentique de ce lit.
Donc il travaillait dans cette chambre, Olivia ?
Oui, il travaillait dans cette chambre. Entre autres, il travaillait aussi dans sa bibliothèque. Mais là, vous avez sa table. Le plateau est de l'époque de Montesquieu. Les pieds ont été refaits au XIXe siècle. Et Montesquieu aurait rédigé une partie de son manuscrit de l'Esprit des Lois sur cette table. Donc, emblématique tout de même.
Est-ce que vous connaissez son rythme de travail à l'époque ? Quelle est sa vie, son rythme journalier ? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève tôt, par exemple ?
Alors sur ses habitudes, c'est assez difficile de le savoir. Alors bien sûr, Montesquieu a consacré toute sa vie à la prise de notes. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Il n'a pas passé toute sa vie ici à La Brède. Il avait une vie partagée entre La Brède, où il était généralement en belle saison, et Paris, où il était l'hiver. Et quand il s'arrêtait au cours de ses voyages, il prenait des notes, des petites impressions.
Donc il travaille dans la chambre également, dans la bibliothèque.
Oui.
Donc on va voir la bibliothèque.
Oui, d'accord.
On se dirige vers la bibliothèque.
Oui, alors Montesquieu, il avait deux chambres, une à l'étage, à côté de sa bibliothèque, qu'il occupait au début de sa vie. Mais Montesquieu a été affecté par des problèmes de vue, par la myopie, la cataracte. Et donc, pour des raisons pratiques, il préférait rester dans sa chambre au rez-de-chaussée. Et c'est pourquoi, à la fin de sa vie, quand il préparait son manuscrit de l'Esprit des Lois, il était plus au rez-de-chaussée qu'ici, à l'étage. Et alors, de sa chambre, on a une magnifique vue sur le parc qui entoure le château. Alors, on voit l'allée qui mène directement au château. Et c'est un parc que Montesquieu a aménagé au XVIIIe siècle, Quand il a voyagé, Montesquieu, quand il est parti en Hollande, il y a vécu et il avait été émerveillé par les parcs et jardins à l'anglaise. Et il a voulu faire la même chose ici dans son domaine. Donc, à savoir que la forêt était un peu plus près du château au début du XVIIIe siècle. Et quand il est revenu de son voyage, pour faire comme les parcs à l'anglaise, il a créé des ouvertures dans la forêt, mais de manière irrégulière, créé des effets de surprise, des jeux de perspective. Et donc, il pouvait avoir Montesquieu de chaque fenêtre de son château une vue différente. C'est vrai que la vue est remarquable, hein, c'est une très très belle vue de ces pièces.
Et une vue également sur l'eau.
Sur les douves, oui, qui ont cette particularité d'être encore remplies d'eau. Donc il n'y a qu'un seul accès au château et ce caractère encore authentique. Il ne manque que les carrosses et Montesquieu.
Cette pièce est incroyable, Olivia. Vous pourriez nous la commenter?
Oui, cette pièce est incroyable déjà par sa dimension, hein, vaste pièce. C'est une pièce qui fait 216 mètres carrés, qui est voûtée en berceau. Et c'était la bibliothèque de Montesquieu.
Donc ce n'est pas une petite bibliothèque.
Ce n'est pas une petite bibliothèque intime. Hein, non, c'est une grande bibliothèque.
Avec une incroyable cheminée d'ailleurs.
Oui, cette pièce est une des premières réalisation du château moyenâgeux. Et cette pièce au Moyen-Âge était une salle de garde, d'où cette cheminée immense recouverte de fresques 19e pour la plupart.
Il y a encore beaucoup de couleurs sur la cheminée. J'imagine qu'à l'époque, ça devait être éclatant.
Oui, certainement. Il y avait certainement une fresque au-dessus de la cheminée, mais ça a été retouché au 19e et 20e siècle. Alors ça, c'est en cours d'expertise. On est en attente de prélèvement pour pouvoir dater ces fresques. Mais sinon, cette couleur rouge, un peu sang de bœuf, existait du temps de Montesquieu. Donc une pièce assez chaleureuse.
Et alors, de quoi parle la fresque? On voit des animaux, on voit des personnages. Est-ce qu'il y a une histoire, un rapport à cela?
Alors ça serait Charlemagne, mais ce n'est pas justifié, c'est juste une croyance, on ne sait pas exactement. Charlemagne, de retour de Roncevaux avec le corps de Roland, il aurait campé à 1 km du domaine et certainement il aurait été représenté ici. Mais comme ça a été retouché...
On ne peut pas vraiment dire l'origine.
Non.
D'accord, donc Montesquieu travaille dans cette bibliothèque. Vous avez une idée de la façon dont ça se passait?
Alors déjà, la pièce n'était pas aménagée de cette manière. Mm-hmm. Montesquieu avait des armoires, énormément d'armoires individuelles.
Qu'est-ce qu'il mettait dans ses armoires?
Des ouvrages. Il en avait près 4800 ouvrages qui étaient écrits dans différentes langues, en français, en latin, en grec, en italien, en anglais, des langues comme beaucoup d'intellectuels qu'il parlait couramment.
Il lisait beaucoup dans différentes langues?
Oui, il lisait dans toutes les langues que je viens de vous citer.
D'accord, très polyglotte.
Oui, il parlait aussi le gascon avec les villageois de la Brède, des paysans qu'il fréquentait très souvent.
Donc vous disiez qu'il avait beaucoup d'armoires, beaucoup de livres. Mm-hmm. Et donc, comment est-ce qu'il se partageait le temps entre la chambre et la bibliothèque? Vous avez une idée?
Non, ça on ne sait pas. D'accord. Je ne sais pas.
Mais cette bibliothèque donc donne sur le jardin également?
Oui, oui, par de grandes fenêtres qui ont été percées à la Renaissance, hein, des fenêtres à meneaux, donc qui ouvrent sur l'extérieur pour apporter un peu de lumière. Mais on voit qu'il n'y a pas énormément d'ouverture quand même. Et on
ça, c'est sombre d'ailleurs.
Oui, on s'imagine Montesquieu travaillant avec des bougies, bien sûr, pour pouvoir lire.
Et donc, la pièce était aménagée de quelle façon à l'époque?
Alors, ces armoires individuelles à Montesquieu étaient réparties dans toute cette pièce, réparties de part et d'autre de tables de travail.
Donc, il y avait plusieurs tables de travail?
Oui, plusieurs tables de travail et une en particulier dans sa chambre.
Pourquoi plusieurs tables de travail? Vous avez une idée?
Il y recevait du monde, mais des amis. Hein. Enfin, c'était ce château est... Montesquieu n'avait pas de grande réception, ne donnait pas de grande réception ici au château. C'était un endroit assez intime, familial. Il recevait des amis qu'il invitait à quelques tables. Et du temps où Montesquieu était jeune, c'est son père qui avait créé cette bibliothèque. Et donc c'est son père qui lui a transmis cet amour pour la lecture. On peut imaginer qu'il était avec son père en train de lire dans cette pièce.
Est-ce qu'il recevait des gens connus à l'époque?
Pas ici au château, ce sont surtout des amis qu'il recevait, comme l'abbé italien, l'abbé Guasco. Petit rappel sur le parc, pour le parc à l'anglaise, quand il entretient des correspondances avec cet ami Guasco, et il invite à venir au château en lui disant « Je me fais une fête de vous mener à ma campagne de la Brède. Vous y trouverez un château gothique à la vérité, mais orné de dehors charmants dont j'ai pris l'idée en Angleterre. » Là, on a la preuve que... Enfin, on sait vraiment comment est-ce que c'est influencé de ces parcs à l'anglaise. Et donc, il recevait des amis ici, dans cette bibliothèque, de manière très simple, puisque Montesquieu, sur ses portraits, soit de profil, le portrait le plus connu de Montesquieu, on le voit, on a l'impression de quelqu'un d'assez sévère, un portrait assez austère, mais c'était quelqu'un de très simple. Et ça, ces informations, on les a par des correspondances de personnes qu'il recevait ici. Il allait avec eux se promener sur ses terres, dans ses vignes. Et donc, toujours, il les recevait d'une manière très, très simple.
Il était aussi un propriétaire terrien.
Oui, avant toute chose, avant d'être écrivain, Montesquieu Brédois était propriétaire de vignes. Alors, il avait des vignes dans son domaine de la Brède, mais l'essentiel de ses terres était dans la région bordelaise. Et son vin avait une grande importance puisque c'était sa source de revenus et c'est ce qui lui permettait de faire ses séjours à Paris.
Dans cette bibliothèque, on ne trouve plus de livres parce qu'à l'époque, vous le disiez qu'il y en avait 4000, plus de 4000.
Oui, plus de 4000. En 1994, la dernière propriétaire, donc la comtesse Jacqueline de Chabannes, pour préserver, conserver tout ce patrimoine, elle a fait une dation à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'ouvrages, il y a juste quelques petites rééditions du XVIIIe siècle dans une vitrine avec aussi sa plume, certainement. Il a dû en user plus d'une pour écrire. Et Montesquieu, très souvent au cours de sa vie, il se faisait aider par un secrétaire, puisqu'avec ses problèmes de vue, il avait besoin de quelqu'un à ses côtés pour l'aider, pour lire, pour écrire. Et Montesquieu dictait des idées, des petites choses à ses secrétaires aussi. C'était sa manière de travail. On a quelques notes de ses secrétaires qui indiquent qu'il partait se promener dans ses bois et après quelques heures, il revenait dicter des pages à son secrétaire.
Dans cette maison, il y a beaucoup d'objets qui ont vu passer la vie de Montesquieu. Et parmi ces objets, est-ce qu'il y en a quelques-uns à retenir ?
Oui, certains qui l'ont accompagné. Vous avez ici son fusil. Montesquieu était un chasseur. Également sa canne sur le mur et son baromètre. Puisque Montesquieu, qui s'intéressait à énormément de choses, avait une passion pour les sciences. Il est devenu membre de l'Académie des sciences Arts et Belles-Lettres de Bordeaux en 1716. Et ensuite, c'est l'Académie française qui lui a ouvert ses portes en 1728.
Nous sommes à présent devant la façade du château. Est-ce que cette façade est authentique ?
Elle a été remaniée, cette façade. Alors, ce château est à l'origine un château moyenâgeux. Il a été construit du début du XIVe siècle jusqu'au XVe siècle. C'est un château défensif, une forteresse, qui a été restaurée au XVIe siècle, à la Renaissance. Désir de la famille d'avoir un château un peu plus agréable pour y vivre. Et elle a fait rajouter de grandes fenêtres à meneaux sur toutes les façades. Et aussi cette cour qui était fermée par un mur de 10 mètres de haut, pour défendre toujours le domaine, il a été détruit au XVIe siècle pour laisser entrer la lumière à l'intérieur du château. Et ce qui nous permet aujourd'hui aussi de découvrir l'environnement, le cadre tout autour de ce château, emprunt encore d'une grande sérénité. Les abords du château sont des prairies comme les parcs à l'anglaise et entourés de bois avec une grande variété d'arbres. Et un peu plus loin dans le domaine, il y a le corps de ferme, ce qui était appelé ménagerie du temps de Montesquieu, où il y avait les chais pour la vinification et où les bovins étaient rentrés. Et aujourd'hui, il y a des projets à des nouveaux propriétaires de la fondation Jacqueline de Chabannes qui gère le château. Elle souhaite réhabiliter le site comme il était du temps de Montesquieu. Et depuis peu, elle a fait venir des bovins, des basadés, comme on peut le voir dans la prairie. Et elle a eu ses projets de réimplanter la vigne de Montesquieu qui avait été arrachée en 2000. Donc on espère dans quelques années peut-être une dégustation hein, du vin du château de la Brède, et aussi projet de réhabiliter ce corps de ferme pour animer un peu plus le site.
C'était donc Olivia Battistello qui nous faisait la visite de l'incroyable demeure du philosophe et académicien Montesquieu, le château de la Brède. Pour découvrir ce château qui se trouve à 20 km au sud de Bordeaux, vous pouvez vous renseigner sur le site web www.chateaulabrede.com. J'appelle chateaulabrede.com et bien sûr retrouvez cette émission sur canalacademy.com.